La radiodiffusion française vous invite à écouter.
La figure du missionnaire.
À Ouagadougou, capitale des Mossi, où règne le Moro Naba, les Pères Blancs se sont installés dès 1901. Leur mission est aujourd'hui en plein essor. Ils s'y attachent d'abord à l'éducation des petits indigènes, garçons et filles, qu'ils disciplinent et à qui ils apprennent le français.
Attention, ce serait une erreur de penser qu'il n'y a de mission que chrétienne. La France a inventé aussi la mission laïque, un organisme qui naît au début du XXe siècle dans le but de projeter des enseignants à l'étranger. Et dans les années 1970, elle a inventé les French Doctors. C'est à se demander si l'idée de mission n'a pas partie liée avec l'idée que la France se fait d'elle-même, généreuse et universaliste, évidemment. À la fin du XIXe siècle, les Français, à eux seuls, constituent près des trois quarts des missionnaires catholiques dans le monde. Un peu plus tard, au temps de Tintin au Congo, Milou s'exclamait « Quels as, ces missionnaires !» On dirait que Milou est belge. Puis c'est Hergé lui-même qui, dans les éditions plus récentes, réduisit la voilure. L'époque de l'admiration béate est bien révolue. C'est même pour nous devenu difficile de comprendre cette aventure au long cours, sauf à admettre que l'esprit humanitaire contemporain partage de nombreux points communs avec l'esprit missionnaire.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
Philippe Delisle, bonjour. Quand vous étiez jeune professeur à la Réunion et que vous disiez à vos collègues « j'ai m'occuper de mission », ils vous répondaient ?
Alors, ils pensaient effectivement que j'allais travailler sur des fonctionnaires en mission, envoyés en mission par le rectorat, par exemple, de la Réunion. Tant, sans doute, depuis les années 60, le mot mission était tombé en désuétude et est devenu presque tabou. Dans le monde universitaire, il en allait à peu près de même. Quand les premiers universitaires qui ont relancé un petit peu la recherche sur les missions dans les années 1970 ont lancé des programmes, ils utilisaient des périphrases. Par exemple, l'exportation des modèles de christianisme outre-mer, qui faisait très sociologique et donnait du lustre à cette approche.
La capitale universitaire de la recherche sur les missions, c'est Lyon. Et Lyon a été un grand lieu de départ pour nombre de congrégations missionnaires. Vos thésards, ils sont africains pour la majorité maintenant ?
Alors actuellement, par un effet de retour, effectivement, on a de plus en plus qui s'intéressent à la mission, les gens qui ont été missionnés, qui ont été objets de la mission, c'est-à-dire des Africains d'Afrique subsaharienne notamment, qui considèrent que cette identité religieuse est au cœur de leur histoire, qui se sont réappropriés cette identité chrétienne et qui ont très envie de refaire l'histoire de la mission dans leur pays. Et les archives se trouvant en Europe, la plupart du temps, ils viennent travailler en France.
Une autre capitale, c'est Paris. Et à Paris, les éditions Cartala, qui publient nombre de livres consacrés au sujet et une revue que vous animez sur l'histoire et les missions chrétiennes. Vous, quand vous étiez petit, vous alliez peut-être au catéchisme, mais qu'est-ce qu'on vous racontait au catéchisme ?
Alors moi, je suis un enfant d'après 1968 et d'après Vatican II et d'après la crise du catholicisme. Et effectivement, j'étais dans un collège catholique où notre aumônier nous faisait faire des crêpes Suzette et nous faisait lire Karl Marx en nous disant « Oh, le christianisme, ça va pas vous intéresser ». Ce qui fait que la figure des missionnaires ne m'était pas très, très familière.
Mais une génération avant, les missionnaires venaient, quand ils étaient en vacances, prêcher aux jeunes collégiens pour en faire des graines de révérends futurs.
Tout à fait. C'est sans doute un des éléments qui a contribué à beaucoup de vocations missionnaires dans un pays comme la Belgique, sans vouloir être désagréable avec nos amis belges, où le climat dans les années 30 n'est quand même pas subtropical, où il n'y a pas beaucoup d'occasions de détente. Pour les jeunes collégiens, et à peu près les deux tiers des collégiens sont les écoles catholiques en Belgique dans les années 50 encore. Pour les jeunes collégiens, des grands-mamans d'extase et de détente, c'était lorsqu'un père qui était en vacances en Europe venait dans leur collège, et souvent il venait avec sa soutane blanche, sa barbe, qui étaient les attributs de cet aventurier catholique, parce que dans l'église, normalement, la barbe était assez mal vue au 19e et début du 20e siècle, c'était plutôt un signe de gauchisme. Seuls les missionnaires avaient vraiment le droit de la porter, parce que c'était des broussards, donc ils ne pouvaient pas se raser, parce qu'au fin fond de la jungle, il n'y avait évidemment pas d'eau et de rasoir. Et souvent, ces pères venant dans les collèges amenaient un animal empaillé, un saint singe empaillé, venaient avec un fusil, racontaient aux enfants la chasse dans la forêt équatoriale avec des pisteurs pygmées. Et donc beaucoup de ces enfants, sortant de cours, voulaient devenir un aventurier, c'est-à-dire un missionnaire.
Et on se retrouvait comme ça dans les lieux de formation, à l'annonce et à l'envoi. Venait d'ailleurs assez vite le moment de l'envoi.
C'est donc la main inquiète, mais prête à toutes les générosités, qu'il se présente à son supérieur après la cérémonie. L'entrevue est émouvante. Le supérieur se met à genoux et demande sa première bénédiction au nouveau prêtre. Puis, se relevant et le regardant dans les yeux, il prononce un mot, un seul, le nom d'une contrée lointaine, peut-être malsaine, peut-être barbare.
Et pour ce pasteur togolais qu'on va entendre, ce sera Ittenheim, dans le Bas-Rhin.
Je fus nommé pasteur dans ce village. Et alors, ma grande surprise, il me disait « Yo, yo, on a tout vu dans ce village. Il y avait avant les nazis, mais un pasteur noir, on n'a jamais vu. On n'en veut plus. On n'en veut pas. » Alors, je leur ai dit « Mais écoutez, faisons un essai. Si ça marche, je reste. Si ça ne marche pas, je plie bagage. » J'étais là pour 2 ans. Mais au bout de la 2e année, « Yo, yo, avant, on ne voulait pas qu'il reste, mais maintenant, on ne veut plus qu'il parte. On ne savait pas qu'il était si gentil. » Mais moi, je leur ai dit, 2 ans, c'est 2 ans. Moi, je m'en vais. Bis next mall. Ça veut dire quoi? Au départ, ils ne voulaient pas. Mais quand on a essayé, moi, j'ai essayé de leur montrer qu'on peut être noir, être plus alsacien qu'un alsacien. Bis next mall, hein?
Le pasteur Setozzo au micro de Raphaël Kraft pour France Culture. Ben oui, de nos jours, la France est une terre de mission pour les pasteurs et les prêtres noirs. Le curé que suppléait le père Hamel à Saint-Étienne de Rouvray est congolais, il était en congé au mois de juillet. C'est pour ça que le père Hamel a célébré la messe à sa place.
Oui, l'Europe était, vous l'avez dit précédemment, un formidable réservoir de missionnaires au XIXe siècle, et notamment la France, avec 3/4 de missionnaires dans le monde qui étaient français. Et avec la sécularisation en Europe occidentale à partir de la seconde moitié du XXe siècle, et les résultats de la mission dans les pays du Sud, les forces se sont inversées. Et maintenant, il y a plutôt un trop-plein de vocations dans certains pays comme l'Afrique subsaharienne, et en revanche, un manque terrible de vocations en Europe, ce qui fait par un effet de retour, des missionnaires africains maintenant qui viennent évangéliser dans les paroisses. Et on voit à propos de ce pasteur que finalement il reste fidèle à l'idéal de la mission, qui est aussi de s'inculturer, d'entrer dans la culture de l'autre, puisque ce pasteur a adopté l'accent alsacien et parle même quelques mots d'alsacien.
Dans Le Monde, mardi, un article, le réveil missionnaire des catholiques français. Et alors ce réveil, il est en partie actionné par la concurrence de l'islam. L'islam les interpelle, dit le journaliste du Monde. Alors, on va balayer la manière dont on peut faire l'histoire des missions de manière contemporaine, à partir des questions d'aujourd'hui. Il en est qui sont historiens de l'économie ou bien sociologues qui se disent « il faut étudier la mission comme un marché où se produisent des concurrences ».
Tout à fait. Et dès le départ, il y a, au sein même de l'Église catholique, il y a des concurrences sur les questions de qui dirige la mission, puisque les rois d'Espagne et du Portugal, qui ont été les premiers à conquérir de vastes territoires vers l'Asie et l'Amérique, demandent à la papauté de pouvoir gérer eux-mêmes les missions. C'est le patronat que la papauté leur accorde. Et puis, à un moment donné, la papauté organise elle-même, avec une espèce de ministère des missions au Vatican, la Sacrée Congrégation des Propaganda Fidei, pour la propagation de la foi, et va entrer en concurrence avec les Espagnols et les Portugais, et finalement récupérer son droit de regard sur l'ensemble des missions.
Et les congrégations, parce qu'il faudrait citer leurs noms, certaines ont de jolis noms.
Et les congrégations,
Oblat,
effectivement.
Oblat de Marie, Immaculée, oui, Palotin, Chiotiste. Elles ne sont pas en concurrence les unes avec les autres ?
Alors, elles sont parfois en concurrence les unes avec les autres aussi, tout à fait. Pour la création, lorsque, par exemple, il y a de nouvelles terres de mission, comme en Afrique occidentale, Rome crée un vicariat apostolique, et puis il s'agit de savoir qui va y être envoyé. Et là, parfois, entre Spiritains, Père Blanc, qui sont tous les deux sur la côte de l'Afrique, il va y avoir des affrontements assez durs pour avoir ce territoire de mission. Et puis, bien sûr, des affrontements aussi assez rudes entre catholiques et protestants pour s'emparer des âmes, et avec des marqueurs très nets. On voit très bien dans quelle mission on est. Par exemple, s'il y a une statue de la Vierge, on est en territoire catholique. S'il n'y en a pas, on est en territoire protestant.
L'historien du politique aussi s'intéresse aux missions. Alors, il va se poser la question de savoir si les missions sont en concurrence avec le pouvoir colonial ou si les missions sont en alliance avec le pouvoir colonial.
Alors c'est une vaste question, ça, évidemment, qui a suscité beaucoup de débats chez les historiens après les indépendances. Actuellement, la vision qu'on en a est une vision assez équilibrée qui montre qu'il y a eu effectivement des collusions, qu'on peut comprendre parce que partir en mission, ça nécessite de mobiliser beaucoup de moyens, ne serait-ce que le voyage, comment partir, comment financer. À partir du moment où on part dans une colonie de son pays, si un missionnaire français part dans une colonie française, ça facilite beaucoup les choses. Il va pouvoir voyager sur un bateau de la marine française. Les écoles sont en français, sont administrées. Il y a moyen de faire des conventions avec l'administration coloniale. Cette collusion, en même temps, elle varie selon les lieux et selon les acteurs, parce que l'objectif final n'est quand même pas le même. L'objectif de la colonisation est plutôt d'enrichir la métropole, de gagner de l'argent. L'objectif de la mission est plutôt de sauver des âmes. Et donc, on va avoir des situations variées. Au Congo belge, on a sans doute, et on le voit un peu peut-être à travers Tintin au Congo, on a sans doute une assez forte...
Il faut que je dise que Philippe Delisle est un spécialiste de BD et que peu à peu, on va voir les thèmes de BD monter dans l'émission. Mais je vous laisse continuer.
On a sans doute une collusion très forte parce que c'est le roi des Belges qui, à titre privé, a fondé cette colonie. Et comme il n'avait pas les moyens d'un État, il a confié toute la scolarisation et les aides assistantes à des missions catholiques en leur donnant d'immenses territoires. Ce qui fait que dès le départ, au Congo belge, les missionnaires sont vraiment acteurs de la colonisation. En revanche, dans beaucoup d'autres colonies, on a des missionnaires qui vont vite ruer dans les brancards parce qu'ils ne sont pas d'accord avec ce que fait l'administration. Une figure comme Monseigneur Augouard, par exemple, qui est vicaire apostolique au Congo, va faire des procès à l'administration coloniale parce qu'elle considère qu'elle ne punit pas assez lourdement des colons qui ont martyrisé les Noirs. Et par exemple, il y a une lettre assez formidable d'Augouard, où Augouard dit à son supérieur des Spiritains « C'est bien dommage que nos braves cannibales n'aillent pas de temps en temps au ministère des colonies pour dévorer quelques fonctionnaires, parce qu'on serait plus tranquille. »
Alors, l'idéal quand même pour les missionnaires, ça serait de pouvoir constituer autour d'eux des sociétés entièrement catholiques ou entièrement protestantes. Peut-être est-ce le rôle des grandes fermes coloniales du Congo belge que vous évoquez, mais c'est réalisé dans des zones d'ombre, dans des zones périphériques. Par exemple, Wallis et Futuna dans le Pacifique, qu'on présente souvent comme une théocratie, le pouvoir de Dieu sur terre dans les mers du Sud.
Un saint vivant descendu d'un vidrail, avec sa barbe de neige, s'avance dans le chemin. C'est le vrai souverain de l'île. Le vicaire apostolique, l'évêque de l'archipel, Monseigneur Poncet. Il est vénéré. Les cavaliers descendent de cheval à son approche. Chacun s'agenouille devant lui. Il a passé 35 ans de sa vie dans le Pacifique. Il défend les missionnaires d'avoir songé à créer ici une théocratie, comme les jésuites l'ont tenté jadis au Paraguay. Mais il est naturel, pense-t-il, qu'un peuple chrétien se soit donné des règles de vie austères.
Monseigneur Poncet, vous êtes depuis 35 ans dans le Pacifique. Le travail de la mission, ici aux îles Wallis, a été un travail considérable. Les missionnaires sont arrivés les premiers et sans l'aide d'un soldat ou d'un gendarme, sans, pendant toutes les premières années, l'aide de l'administration, vous vous êtes installés et vous avez accompli un très grand travail. Depuis quand les missionnaires sont-ils aux Wallis?
Les premiers missionnaires sont arrivés en 1837. C'étaient des missionnaires maristes. Les deux îles étaient entièrement païennes à ce moment-là, peuplées d'indigènes polynésiens. Ils ont réussi, après beaucoup d'épisodes, de difficultés, à convertir ces deux îles. Les premiers baptêmes ont eu lieu en 1842.
C'est un reportage très révérend, hein, vous l'avez noté, de l'ORTF en 1961. Pas besoin de gendarmes, pas besoin d'administration. Il est vrai que la population est assez limitée. Vous avez étudié telle ou telle de ces enclaves qui font penser aux réductions des jésuites au Paraguay au XVIIe siècle, sur la terre comme au ciel, dit une pièce qui raconte la vie des réductions. En Guyane, par exemple.
Oui, dans la mesure où l'objectif final n'est pas le même, l'alliance avec le colonisateur ne peut être que temporaire. Et finalement, pour le missionnaire, l'idéal serait d'arriver à construire une petite société chrétienne en dehors, d'où cet exemple de Wallis avec de petites îles, éventuellement avant la colonisation, et d'où en Guyane, le rêve d'une société, comme ça, d'une micro-société toute chrétienne, assez originale, parce que cette fois-ci, pas dirigée par des missionnaires hommes. Quand on pense aux missionnaires, on pense plutôt effectivement à un père barbu en soutane, mais à peu près la moitié des missionnaires, au moins, étaient des femmes, qu'on a un peu oubliées. Et une supérieure d'une congrégation religieuse française très active, la mère Marie Javouet, qui avait créé les Sœurs de Saint-Joseph de Cluny, à essayer de créer une espèce de village très chrétien sur le Maroni, dans une région totalement isolée de la Guyane, avec des Noirs qui avaient été libérés de l'esclavage. Et où, effectivement, c'était les religieuses qui régnaient complètement sur cette petite société. C'était elles qui avaient les seuls magasins de l'île, c'était elles qui organisaient le travail, qui organisaient l'enseignement. Parfois, avec des aspects un peu contraints, c'est par exemple le fait que, évidemment, ces sœurs ne voulaient pas qu'il y ait de relations sexuelles hors mariage. Donc la mère supérieure prévoyait des coupes, on donnait des petites récompenses et on mariait de manière un peu contrainte les gens. Ce qui montre aussi la limite de ces modèles, parce que ce sont des modèles qui vont exercer une forte contrainte sur les populations. Et puis, lorsqu'ils se développent, ils entrent en concurrence avec le reste de la société et leur avenir est difficilement tenable.
On aura peut-être l'occasion, parce que vous avez consacré un autre livre que celui que vous avez écrit sur la Guyane à cette grande île, de parler d'Haïti un peu plus tard dans l'émission. Haïti, c'était l'idée d'une Bretagne catholique, noire. Et la dernière grande question que posent des historiens contemporains aux missions est une question d'histoire culturelle. Alors, qu'en est-il? Qu'est-ce que c'est que ce mot que vous avez employé? C'est un mot très catholique, ça, très Jean-Paul II, de l'inculturation. Il n'y a pas eu écrasement des cultures?
Oui, c'est un mot jésuite même. Les anthropologues parlent plutôt d'acculturation. Et c'est ce qui fait le grand intérêt pour les historiens, je pense, actuellement, de cette histoire des missions. C'est qu'on ne raisonne pas sur des questions, est-ce qu'il y a une vérité religieuse qui est transportée ou pas? Ça, ce sont des questions théologiques ou de foi. Ce qui est intéressant pour nous, c'est que les missionnaires exportent une religion qui s'incarne dans une culture et qui rencontre une autre culture. Et qu'on a des phénomènes, donc, de contact interculturel, de métissage, de recréation, de réappropriation. Et effectivement, les théologiens jésuites ont considéré que, dans le cadre de la mission, il fallait nécessairement s'intéresser à la culture de l'autre et qu'il fallait peut-être aller jusqu'à un christianisme qui s'incarnerait dans la culture de l'autre. Ça pose des...
Ça s'est pas fait tout de suite, ça.
Non, ça s'est pas fait tout de suite. Et puis, ça peut prendre, évidemment, des formes très, très variables.
C'est-à-dire un qu'il peu peut contrainte, avoir, comme vous
dites. Il peut y avoir une toute petite inculturation qui consiste à parler la langue de l'autre. Et puis, il pourrait y avoir une grande inculturation qui pourrait consister, par exemple, à s'interroger sur l'Eucharistie et à dire le pain qui a une signification très forte en Occident n'a pas de signification en Afrique. Est-ce qu'il ne faudrait pas communier sous la forme de manioc ou de mil, par exemple, pour que les populations comprennent ce qu'il en est?
Mais on peut avoir des étapes différentes. Si on reste dans l'Océanie, à côté de Wallis, enfin quand on dit à côté en Océanie, c'est en milliers de kilomètres qu'il faut calculer, il y a les îles Marquises où les missionnaires, dans un premier temps, ont détruit les idoles. Et puis, dans un dernier temps, c'est l'évêque des Marquises qui a restauré largement la culture des Marquises, créant le festival de musique des Marquises.
Tout à fait. Les missionnaires, dès le départ, même dès les premiers temps, lorsqu'il y a des contacts assez rudes, s'intéressent quand même à la culture de l'autre, souvent beaucoup plus que le colonisateur. Parce que pour évangéliser, il faut qu'ils communiquent. Et par exemple, la langue, beaucoup de langues seraient des langues mortes si les missionnaires n'avaient pas composé des dictionnaires, par exemple des langues amérindiennes aux Antilles. Le premier texte en créole, qui était cette langue que parlaient les esclaves noirs aux Antilles, écrit, est un catéchisme qui a été réalisé en créole par un prêtre. Alors, pendant longtemps, les missionnaires isolent dans cette culture les religions à l'égard desquelles, là, ils sont très négatifs, en considérant que ce sont des superstitions, puisqu'ils veulent imposer le christianisme. Mais les choses évoluent au XXe siècle, et on va voir de grands anthropologues, y compris sur les religions, qui viennent du monde missionnaire.
Un petit pas de côté avec cette chanson du Père Godon.
Au clair de la lune, petit frère blanc, je n'ai point de plume, je suis ignorant. Si tu veux nous plaire, à nous négrillons, viens sois missionnaire, nous t'en supplions.
Au clair de la lune, cher petit négro, je saisis ma plume pour t'écrire un mot. Je serai, j'espère, qu'y a-t-il de mieux, un révérend père pour l'amour de Dieu.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun.
En direct en public des rendez-vous de Blois, dont le thème est partir, nous traitons de la mission, partir en mission, avec Philippe Delisle. Alors, je vous ai contraint à ne pas parler encore de la bande dessinée. C'est le moment ou jamais de le faire, parce que pour rendre le sujet sensible aux contemporains, vous essayez d'expliquer comment la figure du missionnaire est incarnée dans la bande dessinée. C'est toujours un homme barbu, soutane blanche, et intrépide, débrouillard aussi, prêt à tout.
Oui, là, on a évoqué cette propagande en faveur des missions qu'il y a eu en Europe pour collecter des fonds. Et effectivement, ça a imposé dans les années 1930-50 la figure du missionnaire un peu comme un aventurier, notamment en Belgique. Et comme la Belgique est la terre d'élection de la bande dessinée francophone, avec Tintin, Spirou, Blake et Mortimer, etc., les auteurs belges, lorsqu'ils envoyaient leurs héros dans des pays exotiques, étant de culture catholique, souvent plaçaient là un missionnaire, et un missionnaire correspondant à l'image qu'ils en avaient, c'est-à-dire une espèce d'aventurier en soutane. C'est assez amusant de voir que dans Tintin au Congo, l'apparition du missionnaire, Tintin a été attaché par un méchant et va être mangé par des crocodiles, l'eau du fleuve Congo montant avec la marée. On entend des coups de feu, un crocodile meurt, puis un deuxième, puis un troisième, donc c'est un fin tireur qui arrive, et qu'est-ce qu'on voit en bas de la planche? Un missionnaire, fusil à la main, debout sur une pirogue, avec sa barbe et son casque. Comme si le rôle du missionnaire, finalement, était de se promener sur une pirogue, un fusil à la main, pour chasser des animaux sauvages.
Quand on fait un grand bond dans le temps, et qu'on arrive maintenant aux années 1980-1990, le dernier grand personnage de missionnaire qui apparaît dans la BD, dans les albums de Yann et Véron, c'est un barbu avec un fusil sur une pirogue. C'est un nom qu'il faut que vous connaissiez tous. Odilon Verju. Verju au sens de ver galant, vous voyez. Il est en Nouvelle-Guinée, et puis c'est un dur de dur.
Oui, il est inspiré d'un personnage réel, Henri Verju, surnommé l'apôtre des papous. Et à l'époque, dans les années 1920-30, il fallait bien avoir en tête que la Nouvelle-Guinée passait pour un des lieux les plus sauvages, entre guillemets, de la planète. Et cet Odilon Verju, il reprend, alors de manière décalée, humoristique, parce qu'on est dans les années 80, donc on est dans une veine second degré, mais c'est poncif, c'est cliché du missionnaire aventurier. Donc c'est un solide gaillard qui tue aussi des crocodiles à coups de fusil,
Il y a quand même peu de missionnaires qui ont été proxénètes à Pigalle et qui ont inscrit entre les deux épaules ni Dieu ni maître.
Tout à fait.
Ils vont un peu loin, Yann et Véron. Oui.
Ils vont quand même un peu loin. C'est à la fois très, très documenté, on sent qu'il y a toute une connaissance du monde catholique, et puis ils vont un petit peu loin. À un moment donné, il y a des enfants qui sont mangés par un crocodile, Odilon Verju à court, et puis regarde et dit « Oh, ça va, c'était des païens ».
Un des lieux, parmi les lieux les plus étonnants de France, parce qu'il y en a plus d'un, il y a les lieux de retraite des missionnaires, tant on y trouve d'aventures croisées. En voici une qui a accueilli l'équipe télé de la case de l'oncle Doc.
Notre cœur est là-bas. Et tous les matins, à 6h30, quand je prends mon café, j'écoute RFI pour savoir ce qui se passe là-bas. Hein ? Et puis, dans les nouvelles religieuse, nous écoutons beaucoup les nouvelles qui nous viennent de là-bas. C'est notre famille.
Personnellement, si j'avais pu choisir, je serais encore au Bénin. Et je n'avais qu'un désir, c'était de mourir là-bas. J'y ai passé 40 ans de ma vie, c'est quand même assez important. Mon désir le plus profond, c'était d'y rester. Bon, les circonstances qu'on ne choisit pas, évidemment, de santé et autres, font que, un jour, on vous met dans l'avion en disant « c'est terminé ».
Lorsque nous regardons ce que nous avons fait en Afrique, nous pouvons dire que nous avons essayé de faire quelque chose. Mais on se rend surtout compte de tout ce qu'on n'a pas fait, de tout ce qu'on aurait pu faire de mieux. Et si on se donnait une note, elle serait peut-être nettement en dessous de la moyenne.
Comme pour l'esprit humanitaire d'aujourd'hui, l'esprit missionnaire, il est habité par la conscience de l'échec. Ce prêtre missionnaire se donne un peu moins de la moyenne. Il y a des zones de mission, Haïti par exemple, que vous connaissez bien, où la note pourrait être encore plus basse.
Certainement, vous l'avez dit là aussi, un rêve de Bretagne noire, Haïti, où des centaines de missionnaires bretons ont défilé dans l'île au XIXe siècle et caressé le rêve vraiment de complètement réaménager cette société. Et puis au final, au XXe siècle, on se trouve devant le constat d'une île où le vaudou continue à régner à côté ou par-dessus le christianisme, et puis où surtout les structures politiques sont très fragiles, on a des successions de coups d'État, de violence, un prêtre qui arrive au pouvoir avec Aristide, curé des pauvres et qui suscite beaucoup d'espoir. Et puis finalement, c'est ces espoirs qui sont déçus et sans doute cette impression un peu d'échec pour ces missionnaires qui pensaient aussi avoir apporté une civilisation hors d'Europe.
Le pire échec, c'est le Rwanda. C'est dans ce pays peut-être que le christianisme a le mieux pénétré. Les garçons s'appellent Jean-Marie Vianney, Jean Chrysostome. Le cardinal Che Guevara, quand il est venu de Rome après le génocide et qu'il a visité les églises où avaient eu lieu les massacres, est resté très, très, très ébranlé. On va finir, si vous voulez, par un petit hommage à Georges Balandier. Parce qu'on n'a pas parlé de ce qui se passe avec les mutations des continents du tiers-monde. Georges Balandier, qui vient de disparaître à 95 ans, était un des inventeurs du mot tiers-monde. La décomposition de l'esprit de mission que vous nous avez décrit, elle peut s'accompagner aussi, dit l'auteur des Brazzaville noirs, ici il est dans sa jeunesse, au temps d'Afrique ambiguë, d'une recomposition en matière religieuse.
Nous avons, avec notre enseignement missionnaire, diffusé le christianisme, apporté la Bible, apporté un certain nombre d'éléments de l'enseignement chrétien en Afrique. Les Africains ont interprété d'une manière très libre. Et la Bible, et la morale, et les prescriptions religieuses que nous avions apportées. Et puis, avec ces interprétations très libres, ils ont reconstitué, en s'inspirant de leurs anciennes religions, de leurs anciens cultes, n'est-ce pas, des religions nouvelles, qui, selon eux, constituent le véritable christianisme. N'est-ce pas. Cette espèce d'ambiguïté, nous la saisissons là, d'un côté, il y a un Européen qui apporte un enseignement religieux qu'il croit incontestable et intangible, et puis, de l'autre côté, il y a un Africain qui traite, qui manipule, qui triture cet enseignement religieux, et en fait une réalité qui lui est propre, qui correspond à ses besoins du moment, ses besoins religieux, ses besoins politiques aussi.
Je voulais faire entendre la voix de Balandier parce que, de même qu'on parle pas beaucoup de l'histoire de la vie des missions, on n'a pas beaucoup signalé sa disparition. La péroraison, c'est pour vous, Philippe Delisle.
Écoutez, je rebondis sur ce que dit Balandier qui est fondamental. C'est effectivement, c'était la grande peur des missionnaires au moment des indépendances, dans les années 60. C'est que les blancs partant et les missionnaires partant, parfois dans des conditions violentes, le christianisme s'effondre. Or, c'est finalement souvent l'inverse qui s'est passé, c'est que le nombre de conversions au christianisme a cru plus après le départ des missionnaires qu'avant dans certains pays. Pour les raisons qu'explique Balandier, c'est que les populations se sont reconstruites, réappropriées. Souvent, leur univers culturel, religieux avait été justement déstructuré par le choc de la colonisation. Et elles se sont reconstituées une identité en intégrant le christianisme. Et on a assisté à une floraison de christianisme nouveau, de christianisme africain, de prophétisme dans ces territoires.
Et c'est comme ça que parmi vos thésards, il est peu de Français, mais beaucoup d'Africains. Et parmi les Africains, qui sont vos thésards, pas mal de prêtres et de pasteurs. Merci à vous, Philippe Delisle. Je rappelle que c'est aux éditions Cartala qu'on peut lire votre revue pionnière, Histoire et Mission Chrétienne. Vous êtes quelques-uns, pas seulement vous, à l'animer. Et les éditions Cartala ont publié aussi ce livre sur la BD que vous avez cité, le missionnaire dans la BD. Et Cartala rebondit, petite histoire politique de la BD belge de langue française. Ça, c'est votre dernier livre. L'émission était réalisée par Valérie Aestaray, préparée par Franck Olivard, Benjamin Thuo, Jean-Pierre Pernel, Roland Dandalex et Christophe Goudin dans l'équipe technique. Dans peu d'instants, après le flash d'information, l'émission de Mathieu Vidard, La tête au carré.